deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la Sinat Chinam, la haine gratuite entre les gens, alors que le premier a été détruit parce que les Bnei Israël transgressaient les trois avérotes, les trois fautes cardinales. Première remarque, c'est que le premier Beth Amikdash a été détruit. On n'observait pas les mitzvot, et que le deuxième a été détruit parce qu'on avait de mauvaises midot. Donc le premier est en rapport avec les mitzvot, et le deuxième avec les midot. Sur cette Sinat Chinam, le Maharal explique que la raison pour laquelle les Bnei Israël ont perdu le deuxième Beth Amikdash, parce que cette Sinat Chinam, elle a entraîné une cassure où c'est la porte. Claude, tu veux bien être la victime? Donc ils ont cassé avec cette Sinat Chinam, ils ont cassé l'unité du clan d'Israël. On comprend bien l'importance, c'est-à-dire que d'une certaine manière, un clan d'Israël qui perd son unité, il perd quasiment sa raison d'être, parce que l'unité du clan d'Israël, elle doit refléter l'unité d'Hachem. Si le clan d'Israël n'est pas un, alors il ne peut pas. Si le clan d'Israël n'est pas un, il ne peut pas jouer son rôle de peuple d'Hachem. Hachem étant Echad, le clan Israël est Echad aussi. On sait bien que dans les Tfilin, Chazal disent que Akadosh Baruch Hu met les Tfilin également, et de la même manière que dans les Tfilin des hommes, il est écrit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, que Hachem est Echad, dans les Tfilin d'Akadosh Baruch Hu, il est marqué que le clan Israël est Goy Echad Baaretz, un peuple unique et uni. Et donc, casser cette unité, c'est effectivement que le clan Israël se disqualifie et il n'a pas de raison de pouvoir être le peuple d'Hachem, donc le Beth Amikdash n'a pas de raison d'être dans le clan Israël. Mais en fait, dans ce même Maharal, dans le Netivot Olam, dans un autre ouvrage, où il parle là-bas des différentes midot, et il parle de la mida de Lev Tov, du cœur, enfin du bon cœur, il dit quelque chose d'un peu plus profond à ce sujet-là. Mais d'abord, on va rappeler ce que dit Pirkei Avot. Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est un des élèves de Hillel. On dit que c'était le plus petit des élèves de Hillel, et c'est celui qui a mis en place toute la structure du clan Israël pour le Galout. C'est lui, c'est celui qui s'est fait sortir d'Yerushalayim comme s'il était mort grâce à son neveu. Il s'est fait passer pour mort. C'est lui qui a annoncé au général qu'il était devenu empereur. Et il a obtenu quelques cadeaux de ce fameux général qui était devenu empereur parce qu'il lui avait annoncé cette bonne nouvelle. Il a demandé des choses qui étaient aux yeux du général empereur complètement dérisoires. Le général a pensé qu'il allait au moins demander à devenir citoyen romain. Pour Rabbi Yochanan ben Zakkai, ce n'était pas le top du top, ce n'est pas ce qu'il a demandé. Mais il a demandé les choses qui ont permis au clan d'Israël de survivre, de se réorganiser, en particulier les Chachamim de la Yeshiva de Yavne, c'est-à-dire la continuation, d'une certaine manière, du Sanhedrin de clan d'Israël. Rabbi Yochanan ben Zakkai a donc organisé le clan d'Israël pour le Galout. On vit encore aujourd'hui sur l'organisation de Rabbi Yochanan ben Zakkai, sur son génie. Il faut dire que, comme toujours chez les Israël, il y a toujours une marloquette sur cette situation, parce que Rabbi Akiva, le grand, l'énorme Rabbi Akiva, il a dit de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui n'était déjà plus vivant, il a dit à son sujet, « Mi yegale afar me'enecha, qui est-ce qui va enlever la poussière de tes yeux ?» C'est-à-dire, comment se fait-il que tu n'aies pas vu qu'il fallait demander aux Romains de lever le siège. Lever le siège et nous redonner une chance. Rabbi Akiva, il était pour la lutte. C'est pour ça qu'il a soutenu Bar Kokhba en son temps. Et Rabbi Yochanan n'était pas pour la lutte. Et Rabbi Akiva, c'est le géant. C'est deux géants qui s'affrontent. Rabbi Yochanan ne dit rien sur Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva parle sur Rabbi Yochanan et il dit « Mi yegale afar me'enecha » Qui est-ce qui va enlever la poussière de tes yeux? Un manque de vision d'avenir, etc. Il n'empêche que nous avons survécu, et Rabbi Akiva aussi d'ailleurs, grâce à la compréhension grâce à la compréhension qu'avait Rabbi Yochanan ben Zakkai de la situation et aux mesures qu'il a prises à ce sujet-là. Alors dans Pirkei Avot, on nous dit « Amar lahem Rabbi Yochanan ben Zakkai, tsu'u ureu, sortez, allez voir à l'extérieur, sortez du Beit HaMidrash et allez regarder. Eizui derech yishara she'idbak ba'adam. » Quel est le chemin droit auquel l'homme doit coller, c'est-à-dire quel chemin l'homme doit-il choisir? Et alors les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Eliezer a dit c'est Ain Tova, Rabbi Yoshua a dit c'est Chaver Tov, Rabbi Yossi a dit c'est un Shachen Tov, un bon voisin, et Rabbi Shimon a dit Aro est un Olad, il faut être capable, être Chacham, voir l'avenir, et Rabbi Elazar Omer, Lev Tov, Rabbi Elazar a dit Lev Tov, un cœur bon. Amar lahem roé ani et divrei la Hazar ben Aror. Je vois, c'est-à-dire je préfère dans ce qui a été dit là, les paroles de Rabbi Hazar ben Aror, shebichlal dvarav divrechem. En fait, ce qu'il a dit, lui, inclut tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire dans Lev Tov, il y a à la fois Ain Tova, Chaver Tov, Shachen Tov, roé tanolad. Ensuite, il leur a dit, Amar lahem tsu'u re'u ezui derech ra'a shi'itrachek mimena adam. Sortez, allez voir quel est le mauvais chemin dont l'homme doit s'éloigner, sous-entendu à tout prix. Rabbi Eliezer a dit, Ain ra'a, il avait dit Ain tova, le bon chemin, Ain ra'a comme le mauvais. Yoshua a dit, Chaver ra'a, le contraire de Chaver tov. Rabbi aussi Omer Shachen ra'a. Rabbi Shimon Omer, Alove Veno Meshalem, celui qui emprunte et qui ne paie pas, il ne tient pas sa part, il n'est pas fiable. Donc on ne peut pas avoir Emouna en lui. Et Rabbi Elazar Omer, Levra, Amar Lahem Roé Ani et Divré Elazar Ben Aroch, Shebichlal Dvarav Divrechem. Là, de nouveau, Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, je préfère ce qu'a dit Rabbi Elazar, parce que cela contient, ce qu'il a dit, lui, contient tout ce que vous avez dit. Explication du Maharal. Ezui derech tova sheidbak ba'adam. Le Maharal traduit tout de suite, l'ihiyota que shoresh le chol midot atovot. Le chemin qu'il leur a demandé de choisir, c'est un chemin qui soit tel qu'il puisse jouer le rôle de shoresh, de racine de toutes les bonnes midot, de toutes les qualités. Donc ça veut dire que les élèves pensaient par exemple que, je ne sais pas, que Haver Tov, ça peut jouer le rôle de Shoresh. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce que ça veut dire Haver Tov? Ça veut dire que lui soit, Rabbeinu Yonah dit, que lui soit un Haver Tov, n'est-ce pas? Qu'il soit quelqu'un avec lequel on puisse se lier et qu'il soit bon. Quelqu'un de bon. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans son rôle de Haver, est bon. C'est-à-dire fiable, toutes sortes de choses. C'est vrai que la fiabilité elle est incluse dans Haver Tov. Si on n'a pas, si le Haver n'est pas fiable, on ne peut pas le considérer comme un Haver Tov, évidemment. Maintenant, ce Haver, celui avec lequel on se lie, il y a des gens avec lesquels on est lié à son corps défendant, d'une certaine manière, c'est son voisin, par exemple. Le voisin, c'est un Haver. Il y a des gens dont on doit s'éloigner, mais a priori, c'est le premier autre avec lequel on est en contact. Bon, alors si on est un Haver Tov, si je suis capable d'être un bon Haver, c'est-à-dire quelqu'un avec lequel on peut se lier et on en a un bénéfice, c'est bon, c'est bien. Bon, effectivement, je serai de la même manière un Shachen Tov, etc. Donc, la notion de Shoresh, on voit que le Maharal a lu, la question de Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle était de trouver le bon chemin, le chemin droit, qui puisse fonctionner comme, justement, comme racine, comme point de départ, à partir duquel toutes les bonnes midot vont se développer, elles vont s'ancrer en quelque sorte dans cette mida-là. Les qualités. Rabbi Elazar, quand il a répondu, chez Amida Tova, la bonne Mida, celle qui était la meilleure de toutes, en fait, ou la singulière parmi toutes les Midot qui ont été énoncées par les autres. C'est intéressant d'ailleurs que Rabbi Elazar, dans ce texte, il apparaît systématiquement comme le dernier. Il laissait les autres parler d'abord, ensuite lui il a parlé. Et même dans sa façon d'être, de sa façon de parler, c'est comme si c'est pas n'importe qui parle. Donc celui qui parle en dernier, il ne peut pas faire l'économie de ce qui a été dit avant lui. Il a entendu ce que chacun a dit, il a entendu ce que ils ont dit tous ensemble. Quand il dit quelque chose, alors, a priori, lui-même, il ne peut pas, à mon avis, ne pas vouloir, ne pas rechercher une mida qui soit kolelet, une mida qui entraîne, qui inclut les autres. Cette mida-là, elle inclut toutes les autres obligatoirement, parce que sinon, il n'a pas entendu ce que les autres ont dit. Et ça, c'est pas faisable. Salut. La mida ra'a, quand Rabbi Yochanan a demandé le contraire, la mida ra'a, il a aussi entendu que c'était celle qui, elle aussi, incluait les autres. Le Maharal, dans le Netivot Olam, ce qu'on a cité ici, c'est Pirkei Avot. Dans le Netivot Olam, le Maharal, quand il parle de Lev Tov, justement, il a consacré plusieurs chapitres à Lev Tov, à la Mida de Lev Tov. Il dit, Amida Hazot, cette qualité-là, cette Mida, cette mesure, Lev Tov, c'est quelqu'un qui, ou chafetz verotze betov chaverot. c'est quelqu'un qui désire, il veut vraiment le bien de l'autre. Lev Tov. Et même si il voit Bechavero Sheu Nire Sheu Ra, et même lorsqu'il voit que le chaver en question, l'autre en fait, est mauvais, ou Dan Oto le Kaf Zechut, il le juge positivement, le Kolze Mipne Sheu Rotse Betov Chavero. Tout ça c'est parce qu'il veut le bien de l'autre. Ou le kach ou dan oto le kaf zuchut. Pour cette raison, il le juge positivement. Et le contraire, bal élève ra dan et travero le kaf chova. Va mida azot chez dan et travero le kaf zuchut, imida gdola tova. Cela est une très très grande mida dans les bonnes midot. Et là-dessus, Rabbi Yochanan ben Zakkai répond, enfin il commente, et il dit, je vois que Rabbi Elazar ben Aror, l'amida qu'il a citée, elle inclut toutes les vôtres. C'est-à-dire que Lev Tov kolel effectivement les autres midot tovot, et Lev Ra kolel inclut aussi les mauvaises midot. Et là-dessus, le Maharal commente, Roé ani et divré Rabbi Elazar ben Aror, chez Bichla Dvarav Divrechem, il dit, mi sheyesh lo Lev Tov, Nichlelu bo kol ashlimut. Toute la perfection est incluse dans la mida tova, dans cette bonne mida de Lev Tov. Et le contraire dans la mauvaise. On voit que justement ce Lev Tov est effectivement un klal. C'est une mida englobante. Elle est même pas seulement englobante, mais là, il le présente comme un shoresh, comme une racine. C'est-à-dire vouloir le bien de l'autre, désirer vouloir le bien de l'autre. Et donc, le lèvera, c'est désirer et vouloir le mal de l'autre. La sinat chinam, la haine gratuite dont on parle, la destruction du deuxième Beth Amikdash, elle a sa source dans cette mida de l'Evra. C'est-à-dire qu'en fait, ce l'Evra qui est kolel, qui inclut toutes les mauvaises midot. Et de ce fait, le Maharal explique que le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Chinam, et il dit que cette Mida de l'Evra, qui inclut donc Sinat Chinam, c'est une Mida Ra'a Meod, très très mauvaise, comme Chazal le disent dans Avot, dit-il ici dans le Tivot Olam, va yotze min hamida ra'a zot sinat abriot. De cette mauvaise mida de l'Evra, il découle la haine des autres créatures. De la même manière que le Baal, que celui qui enlève Tov, aime les autres créatures, les juge positivement, le Baal l'Evra, il a de la haine pour toutes les autres créatures, les autres. Et à partir du moment où entre les Bnei Israël, il y avait cette mida de Sinat Chinam.
C'est la porte.
Jusque-là, c'est très bien.
Avec la foi.
Donc, ça casse complètement ce Am Echad, ce peuple un, et ça a détruit le Beth Amikdash et ça a entraîné le Galout. Parce que le deuxième Beth Amikdash, les Bnei Israël ne l'ont eu que parce qu'ils étaient Amechad. Ils étaient le peuple d'Israël. C'est en tant que peuple d'Israël qu'ils avaient droit à ce deuxième Beth Amikdash. Pas pour autre chose, pas parce qu'à titre individuel, etc. Non, en tant que peuple, justement. Et c'est en ça que Chazal ont pu dire que la Sinat Chinam, elle équivalait à la transgression d'Avonazara, Gilui Arayot et Shrichut Damim, de l'idolâtrie, de l'inceste et des déviations sexuelles, et du meurtre. Tout ça, ça vient aussi de la mauvaise Mida, Sinat Chinam, qui est donc incluse dans le Levra. On voit donc dans le Maharal que cette Mida de Sinat Chinam, pour lui c'est la même chose quasiment que Levra, parce que ça génère la Kina, la Sina, la jalousie, la haine à l'égard de l'autre, à l'égard même de quelqu'un qui ne lui a fait aucun mal, et à l'égard de quelqu'un qui n'a aucune raison de haïr. Le sod de la Sinat Chinam, de base de Sinat Chinam, justement, c'est de haïr quelqu'un qu'on n'a aucune raison de haïr. Oui, ça c'est plus chinam. On n'a pas le droit de haïr, mais ça n'a pas la gravité de la sinat chinam. Parce que quand j'ai de bonnes raisons, à la limite, ben ça se... si j'ai une raison, alors la haine, elle se concentre sur l'individu pour lequel j'ai des raisons d'avoir de la haine. Mais si la sinat chinam, elle est chinam, ben elle se concentre sur rien du tout. C'est ouvert à n'importe qui. N'importe qui peut tomber sous le coup de cette sinat chinam. Mais maintenant, il faut quand même réfléchir un peu sur le fait que le Beth Amikdash a été détruit par un manque au niveau d'une Mida, même si c'est une Mida très importante. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de cette mauvaise Mida. Les Bnei Israël sont... Le Beth Amikdash a été détruit, il a été brûlé. Les Bnei Israël sont en galoute depuis lors. On n'est pas sorti de ce galoute. C'est assez énorme. Finalement, les trois Averot fondamentales, elles ont entraîné 70 ans de galoute. Et cette mauvaise Mida-là, elle a entraîné le galoute qui dure depuis maintenant plus de 2000 ans. Si on regarde cette fameuse histoire, dont Chazal disent que le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de vous connaissez bien Kamtsa, Bar Kamtsa. Je répète juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Un jour, un certain monsieur dont on ne donne pas le nom, a fait une fête. Il a donné une fête. Et ce monsieur, dont on n'a pas, la Gemara n'a pas jugé nécessaire de le nommer, ce monsieur avait un ami qui s'appelait Kamtsa, et il avait un ennemi qui s'appelait Bar Kamtsa. On voit déjà que ce bonhomme-là, il a un ami et un ennemi qui se distinguent quasiment pas. Ils portent quasiment le même nom. Un il s'appelle Kamtsa, l'autre c'est le fils de Kamtsa. Donc, comme si l'amitié et la haine chez lui, c'était très proche. Et il a invité évidemment tout le monde, et il a envoyé les faire part, il les a envoyés avec son serviteur, qui est amené les cartons. Il est allé amener les cartons à tout le monde, tous les invités. Et le serviteur s'est trompé. Et il a donné le carton d'invitation qui concernait Kamtsa à Bar Kamtsa. Bar Kamtsa, il reçoit un carton d'invitation d'un type dont il sait qu'il le déteste. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Le Hamas veut faire la paix. Alors, j'y vais. Il prend le risque. C'est son ennemi, il prend un risque énorme. Il dit, bon, il annonce la couleur, il veut faire la pêche, voilà, il m'invite, j'y vais. Et puis tout à coup, le maître des lieux, là, le monsieur X, s'aperçoit que Bar Kamtsa est là. On ne dit rien de ce qu'il ne s'aperçoit pas, que Kamtsa n'est pas là. Mais peut-être que Kamtsa est venu sans qu'on l'invite. Comme ça, il dit, moi je suis un copain, je n'ai pas besoin d'invitation. Même quand tu ne m'invites pas, je viens quand même. Je suis ton ami. Donc je viens. Je ne sais pas. Agmaray ne dit pas ça. Mais vous pouvez donner libre cours à votre imagination. Il est là ou il n'est pas là. Et quand X voit Bar Kamtsa, il lui dit, tire-toi de là. Rapido. C'est une honte, tout le monde est assis et il se voit chassé. À la limite, je n'ai pas très bien compris pourquoi, s'il lui avait dit discrètement de faire, l'autre ne pouvait pas partir comme s'il était sorti pour une raison purement technique et ne pas revenir. En quoi est-ce que c'était tellement humiliant de devoir partir? Mais il faut donc imaginer qu'il le lui a dit à haute voix, de telle sorte que les gens aient entendu ce qui a été dit, parce que s'il lui a dit discrètement de partir, il aurait pu partir. Mais bon, l'autre, comme ça, il prend ça comme une humiliation, alors il lui dit, écoute, s'il te plaît, ne me fais pas honte en public, je paierai ma part de ce que je mangerai. Pas question, part. Je paierai la moitié du repas que tu as offert. Va-t'en. Je paierai tout le repas. Va-t'en. Il est parti. Il ne pouvait pas faire autrement. Il est parti, mais réfléchi. Il s'est dit, il y a dans cette assemblée les rabbanim, les maîtres, les sages. Comment se fait-il que personne n'ait réagi? Donc de là, on voit aussi que ça devait être suffisamment public pour que les rabbins puissent s'en rendre compte, parce qu'a priori, Bar Kamtsa, il n'était peut-être pas, il ne s'est pas assis tout devant, parce que les rabbins, ils devaient être devant et ils n'ont pas réagi. Alors il s'est dit, les rabbins, ils représentent le clan Israël. Donc quelque part, c'est le clan Israël tout entier qui est contre moi. Donc il va faire quelque chose contre le clan Israël. Très bien, il est passé de quelque chose qu'il aurait pu faire contre M. X, ou contre spécifiquement les rabbanim. À la limite, il avait qu'à prendre une photo des rabbanim et, je ne sais pas, leur envoyer, enfin leur faire quelque chose à eux spécifiquement, parce qu'ils n'avaient pas réagi. Il n'a pas réagi simplement, il a réagi, il va faire quelque chose qui va affecter la totalité du clan Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vers le gouverneur, l'empereur, peu importe, et il dit, les Juifs se révoltent contre toi. Un délateur. Même si c'était vrai, c'est un délateur. La délation, c'est, pour les Bnei Israël, c'est l'abomination. Mon cher Rabbeinu, en Égypte, il avait une question. Comment se fait-il que les Bnei Israël souffrent tellement? Quand il a vu Datan et Aviram, qui étaient les délateurs, ce sont eux qui l'ont dénoncé à Pharaon, quand il a tué l'Égyptien, il a dit, j'ai plus de questions. pas de question. S'il y a de la délation dans un peuple, ce peuple doit souffrir. Alors maintenant, on peut réfléchir sur pourquoi est-ce que le peuple doit souffrir, comment la souffrance va réparer. Parce que si simplement on dit, ce peuple ne mérite, pour Moshe Rabbeinu, ce peuple ne mérite pas de sortir de Mitzraïm. Il n'est pas capable de recevoir la Torah. Avec la délation. Mais parce que la délation, c'est quoi? La délation, c'est justement l'impossibilité d'une unité du clal. Si quelqu'un vient dénoncer les autres, il casse la structure. La délation, c'est une des formes de lashon hara. Lashon hara aussi, c'est ça. La gravité de lashon hara, c'est ça. C'est qu'avec le lashon hara, il n'y a plus de clal Israël. Le lashon hara, ça casse l'unité, ça fait que chacun est pour soi. Chacun ne pense qu'à soi. Chacun ne mesure les choses que par rapport à soi. Donc pour Moshe Rabbeinu, le fait que le clan Israël souffre, ça n'est plus une question. Ça veut dire probablement que le clan Israël doit encore fabriquer de l'unité grâce à sa souffrance en commun. Mais ça ne sera pas ça la raison pour laquelle les Bnei Israël vont sortir de Mitzrayim. La Kadosh Baruch Hu dit aux Bnei Israël, vous ne sortez pas de Mitzrayim parce que vous avez souffert. Parce que la souffrance a atteint un degré insoutenable. Vous sortez uniquement parce que je l'ai promis aux Avot. Toute la souffrance du clan Israël en Mitzrayim n'aurait pas servi à justifier leur sortie de Mitzrayim, si ce n'était qu'Hachem avait promis aux Avot qu'il ferait sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. Donc, pour revenir à notre sujet, il y a un délateur dans le clan Israël, c'est... Le clan Israël est déjà mort, d'une certaine manière, dès lors qu'il y a ce délateur-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce délateur, pour qu'on voit vraiment comment ça fonctionne? Tout le reste, c'est la machinerie qui va faire le mal au clan Israël. Qui va faire que le clan Israël, qui est déjà, c'est ça qu'il faut comprendre, le clan Israël par l'existence d'un délateur dans le clan Israël. C'est tellement énorme. L'existence d'un délateur dans le clan Israël émiette littéralement le clan Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Le Beth Amikdash va être détruit et le clan Israël va être émietté sur la surface de la terre. Mais l'émiettement consécutif, le galout, n'est-ce pas, n'est que la concrétisation de l'état dans lequel était le clan Israël du fait qu'il y avait un délateur. Et pourquoi il y avait un délateur? Dit le Maharal. Pourquoi il y a un délateur? D'où elle vient cette délation? C'est vrai que le type, il a quand même été humilié publiquement, etc. Personne n'a pris... Mais tout ça, ça vient de quoi? On voit très bien que ça vient de quoi. Ça vient de quoi, alors, d'après vous, tout ça? D'accord, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas d'énergie, vous avez quand même... Bon, si vous dites des choses... Déjà, en temps normal, je n'entends pas bien, mais...
Vous l'avez dit, l'absence de l'Eftop.
Pardon, là-bas?
L'absence de l'Eftop, vous l'avez dit avant.
Non, mais si tu regardes justement le problème de l'absence de l'Eftop, elle se voit où? C'est bien... remonter. C'est plus haut.
À aucun niveau, chaque niveau, chacun n'a pensé qu'à soi, à chaque niveau. C'est-à-dire, y compris par comme ça, qui lui ne s'est pas mis à la place des autres et a choisi de la délation, y compris l'autre, y compris s'il y a des ravages du présent. Chacun, on voit que dans l'histoire, chaque personne qui a pu être en jeu n'a absolument pas eu le souci de l'autre.
C'est ça. Et en fait, si on remonte encore plus, tout ça, ça vient de quoi? D'une erreur. Une erreur de la poste. Enfin, du transporteur, du...
C'est toujours sur le petit personnel.
C'est vrai, c'est une erreur. Il s'est trompé. Mais cette erreur-là... Pardon? Ah oui, alors... Si vous êtes dans les secrets des dieux... Non, mais c'est probablement un révélateur de l'état du plein Israël, c'est ça que ça veut dire. Vous avez raison. C'est sûr que cette erreur-là, mais le Maharal, lui, il explique un petit peu différemment. Il dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le texte, vous connaissez, il est très connu ce texte, le texte dit « Akamtsa ou Bar Kamtsa hein, », à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa, le Beth Amikdash a été détruit, les Béné Israël sont partis en galoute. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait, Kamtsa? Il n'a rien fait, on ne sait même pas s'il était là. Il n'a rien fait, lui.
Il porte le nom de son
ami. Oui, bon, ça, il ne sait même pas, c'est son papa et sa maman qui lui ont donné ce nom-là à la naissance.
C'est celui qu'on est des amis et des ennemis.
C'est, ça, c'est celui qui perd, justement, il accepte cette situation d'amis et ennemis. Donc, le Maharal dit, si lui n'avait pas accepté de jouer ce rôle, d'une certaine manière, de l'ami par excellence, qui implique qu'il y a d'autres qui ne le sont pas, et s'il est ami par excellence, ça veut dire les autres ne sont pas seulement pas amis, mais ils sont ennemis par excellence, donc quelque part, c'est cette existence d'un couple, comme ça et bien comme ça, d'un couple ami-ennemi, c'est ça le Khurban. Le Khurban, il ne vient pas de la c'est Monsieur X en réalité le fautif. C'est l'idée même qu'on puisse tolérer, qu'on puisse accepter de jouer ce rôle-là. On n'a pas à jouer le rôle de l'ami par excellence quand on sait qu'il y a un ennemi par excellence. Il aurait dû, avant, en amont, il aurait dû s'entremettre pour qu'il y ait que X accepte de devenir archi-copain probablement avec Bar Kamtsa, mais que Bar Kamtsa ne soit pas son ennemi au point qu'il ne puisse pas le tolérer dans la salle de réception, même si l'autre est prêt à payer tout le repas. Ça veut dire l'autre est prêt à tout. Mais ne me fais pas honte en public. Non, je te fais honte en public, quoi que ça me coûte en fait. Et alors ensuite, il y a une machine qui se met en marche, mais ça n'est que la machine. Alors la machine, elle va utiliser effectivement le fait que les rabbanim n'aient rien dit. C'est aussi dérangeant. On est dans l'hypothèse, la Gemara, elle n'a pas dit, les rabbanim n'ont rien dit parce qu'ils n'ont rien entendu, parce qu'ils n'ont pas entendu, etc. Bon, c'est dans la tête de Bar Kamtsa que les rabbanim n'ont rien dit, mais probablement que c'est vrai, ils n'ont rien dit. Ces rabbanim-là, probablement, c'est les rabbanim qui ne sont pas capables de faire la leçon aux richards de service. Ils ne peuvent pas se payer aux richards de service, parce que s'ils lui avaient dit, écoute, si tu chasses ce bonhomme-là, nous, on s'en va, ils n'auraient pas chassé, ou alors tout le monde serait parti. Ils auraient joué leur rôle. Donc ici, il y a quelque chose de pourri dans cette société, où ce sont, probablement, c'est pas les Gdolim, probablement, qui sont là, c'est les rabbins, voilà, ceux qui... vous savez, dans le deuxième Beth Amikdash, c'est une époque où les Kohanim Gdolim, ils achètent leurs charges. Le Kohen Gadol était un type qui avait payé plus cher que les autres pour devenir Kohen Gadol. D'ailleurs, il mourait. Hein, il mourait, à chaque coup, il mourait. Mais il voulait avoir été Kohen Gadol pendant une année. Il payait très cher pour ça. Donc quand on est dans un monde où les valeurs s'achètent, on s'étonne. Alors les rabbinim aussi ils achètent leur silence, leur charge, leur sourire, etc. Donc quand il y a des rabbinim, en hébreu moderne, on dit c'est rabbinim mitam, c'est-à-dire des rabbinim nommés par l'État, ou qui des fonctionnaires rabbins, c'est pas étonnant. Donc ces gens-là, effectivement, ce genre de rabbinim, c'est pas une généralité, ce genre de rabbinim, effectivement, ils n'ont pas réagi. Or, pour lui, dans ce repas-là, ces gens-là représentent les valeurs du judaïsme, en fait. Ça représente la Torah. Alors, c'est probablement une erreur de penser que de tels gens représentent la Torah. Mais... Et donc, il y a un grain de sable au départ. Et ce grain de sable, on va lui laisser jouer un rôle de grain de sable qui va gripper toute la machine. un grain de sable. Si vous mettez un grain, il coupe l'homogénéité. C'est un grain de sable qui n'est pas homogène. Tout le reste là, naît de ce fait, il n'y a plus d'unité. Parce que le grain de sable, il est là et il empêche les choses de l'unité de se faire. Et donc cette unité du clan d'Israël, elle n'existe plus dès le moment où il y a un délateur. Et en vérité, dès le moment où il y a, semble-t-il, il remonte encore plus, l'appel Mara. Il faut dire, dès le moment où effectivement il y a ce risque, on pourrait presque dire, de Lev Tov et de Lev Ra. Et quand Rabbi Chaim Zakkai dit il faut choisir un chemin, ça veut dire qu'on ne peut pas être neutre par rapport à ça. Tu es obligé de t'engager complètement dans ce chemin-là du Lev Tov. Et dans ce chemin du Lev Tov, on a la racine, mais il faut veiller à ce que tout ce qui va se développer à partir de cette racine, tout ce que les autres ont dit, le Shachen Tov, etc., Dame de Kassrou, tout ce que vous voulez, toutes ces choses-là, à chaque fois il faut vérifier, est-ce que c'est bien rattaché à la bonne racine ? Est-ce que c'est bien une plante de ce bon chemin-là ? Elle a vraiment poussé dans le bon chemin, cette plante-là ? Parce qu'il faut aller jusqu'au bout de tous les développements de ce shoresh, de cette racine. Alors eux, effectivement, ils n'ont pas bien réagi, en question. Donc ça fait, à la limite, il y a Kamsa, qui a mal réagi. Bon, ben, lui, on voit qu'il a mal réagi, il est délateur. En fait, si on remonte, il y a les Rabbanim qui n'ont pas joué leur rôle, en fait, de Rabbanim. Ils se sont occupés que d'eux-mêmes. Comme ça, il a été touché, et parce qu'il a été touché, il va faire quelque chose qui va faire du mal à tout le clan Israël. C'est-à-dire, quand on me touche, tout le monde va souffrir. Incapable de limiter, en quelque sorte, de se dire, ok, j'ai été touché, mais si tu as absolument besoin de réagir, tu n'es pas capable de l'accepter, ce qui est peut-être très très difficile, il ne se convient pas, mais mettre tout le clan d'Israël en danger avec ça, parce qu'effectivement, ce qui va se passer, c'est il va vers le gouverneur, il lui dit, tu sais, les Juifs se révoltent, mais le gouverneur, il ne le croit pas, il lui dit, tu racontes, j'ai rien vu. Il dit, essaye de regarder, tu verras. Envoie leur par exemple un corban. Tu verras qu'ils ne l'accepteront pas. Un goy peut envoyer un corban au Beth Amikdash. Ça ne peut être qu'une ola, c'est-à-dire un corban qui est entièrement consumé sur l'autel. Mais bon, on accepte. On amène même pour lui des libations, etc., que lui ne peut pas apporter, du vin, etc., il ne peut pas l'apporter lui-même, on apporte ça pour lui. Donc là, Israël paye pour le corban que le goy a voulu donner. Donc on aurait accepté le corban du gouverneur. Seulement, ben comme ça, s'est débrouillé pour que ce soit à lui qu'on confie le soin d'aller prendre un corban chez les Bnei Israël, enfin chez et de l'amener au roi, enfin de l'amener au nom du gouverneur, du roi, je ne sais pas qui il était exactement, au Beth Amikdash. Et ce qu'il a fait, la chose suivante. La Gemara dit, c'est pas clair ce qu'il a fait exactement, on hésite entre deux choses, mais les deux choses sont très intéressantes. Il a fait une entaille dans la lèvre de la bête. D'autres disent qu'il a fait une entaille dans la paupière de la bête. Les goïms qui apportent des sacrifices, ils ont aussi des règles. On ne peut pas apporter un animal malade ou blessé ou avec des défauts, les goïms non plus. Mais chez les goïms, une entaille au niveau de la lèvre, une entaille au niveau de la paupière, ça n'est pas rédhibitoire. Ça n'empêche pas d'approcher le sacrifice. Chez nous, ça empêche. Chez nous, c'est un moum. Chez nous, on ne peut pas l'accepter. Donc, il savait que si on montre cette bête au roi, enfin, je dirais le roi pour préciser, il dira, elle est parfaite. Pourquoi est-ce qu'il ne l'accepte pas? Mais il sait très bien que les Israélites ne peuvent pas l'accepter. Il sait qu'on va, c'est ça le conflit. Il va dire, tu apportes un animal parfait, et c'est parce que c'est à toi. Il vient de toi qu'il ne l'accepte pas. L'important toujours, c'est la légende. Les photos, c'est important, mais quelle légende on va mettre dessous? La légende, c'est une façon, une autre façon de choisir un nouveau point de vue. Quand vous prenez une image, vous prenez une photo, choisissez un point de vue à partir duquel vous allez photographier. Vous choisissez donc un certain angle, vous décidez ce que vous voulez voir de la scène en question. Vous allez placer votre appareil de telle sorte que vous voyez exactement ce que vous voulez voir et que vous ne voyez pas ce que vous ne voulez pas voir. C'est ça tout le travail que Bilam a fait avec Balak. Quand il a tourné autour du clan d'Israël, ils ont cherché un angle sous lequel le clan d'Israël apparaissait de façon négative. C'est-à-dire, vous savez bien qu'une photo, on peut très bien dire toutes sortes de choses. Et si la photo ne parle pas suffisamment bien, on peut ajouter une légende, on peut ajouter un commentaire qui indique aux gens, voilà comment il faut voir la photo en question. Voilà comment il faut la lire. Lui, là, c'est lui qui tient le... Il dit, voilà comment il faut le lire. Il faut lire comme ça. Donc, si l'Ebné Israël était venu lui expliquer au roi, écoute, on va t'expliquer. Chez nous, c'est pas possible, ce qu'il y a chez toi. Mais, avec tout le travail de sape, en quelque sorte, de bar comme ça, hein, il n'allait pas l'entendre. Ça lui serait très difficile de l'entendre. Mais peut-être que ça veut dire un peu plus que ça. Vous voyez bien que quand on nous dit que ce qu'ils ont fait, ça touchait la paupière, donc l'œil, ou la bouche, c'est-à-dire la vision ou la parole, comment est-ce qu'on dit l'œil en la Shana Kodesh? On dit Aïn. Et comment est-ce qu'on dit la bouche? On dit paix. Il se trouve que Aïn et paix, c'est aussi les noms de deux lettres de l'alphabet. Aïn, c'est la lettre qui vaut 70, si vous voulez, en numérique, et paix, c'est la lettre qui vaut 80. Donc, dans l'ordre de l'alphabet, vous avez d'abord le Aïn, ça vaut 70, et après vous avez le P. Vous avez d'abord ce qui correspond à la vision, et ensuite ce qui correspond à la parole. Vous avez peut-être remarqué, vous n'êtes pas obligé de dire ça, dans les keynotes qu'on a, dans Echa, pardon, dans Mikra, il y a 5 chapitres. Et ces chapitres, en gros, sont tous écrit de telle sorte que l'acrostiche est l'ordre alphabétique. C'est-à-dire les versets commencent par Aleph, Bet, Gimel, etc. Alors, des fois c'est double Aleph, triple Aleph, Bet. Ils sont dans l'ordre. Sauf le dernier. Le cinquième, il n'est pas dans l'ordre. C'est un chaotique. Donc, dans tous les textes, dans tous les chapitres, vous avez l'ordre alphabétique. Et quand vous regardez le premier chapitre, bon, c'est l'ordre alphabétique, et vous avez, Mem, Nun, Samer, Aïn, Pe, Tzakouf, etc. Et à partir du deuxième, troisième, quatrième, l'ordre entre le Aïn et le P est inversé. Vous avez l'ordre alphabétique, normal, sauf que la lettre P figure, le verset qui commence par la lettre P figure avant celui qui commence par la lettre Aïn. Il y a une inversion de l'ordre entre le Aïn et le P, c'est-à-dire une inversion de l'ordre entre l'œil et la bouche, une inversion de l'ordre entre la vision et la parole. En d'autres termes, dans le cœur de Echa, dans le cœur des lamentations de Jérémie, de ce Megillat Echa, il y a inversion de cet ordre fondamental. Alors le premier, il faut bien montrer que l'ordre est important. Une fois qu'on a dit l'ordre important, alors c'est significatif que ensuite l'ordre est bouleversé. En fait, la mère, d'une certaine manière, des galouillotes. Mais un galoute d'un genre un peu spécial. Les Bnei Israël sont nés en galoute. Mais le clan Israël n'existait même pas en Israël. Il n'y avait pas de clan Israël. Le clan Israël, comme tel, il n'a existé qu'au pied du Sinaï. À ce moment-là, ils étaient au pied du Sinaï, Keish Echad Brev Echad. Jusque-là, c'était, on peut dire, un amas de personnes, si on parle comme ça. Alors, c'était un peu structuré en plus, mais il n'y avait pas d'unité. La preuve, c'est que, bon, je répète, mais la preuve, c'est que dans toutes les stations par lesquelles les Bnei Israël ont passé jusqu'au Sinaï, ils ont campé chaque fois, on dit Vayachanu. Ils ont campé au pluriel. Et au pied du Sinaï, c'est marqué Vayichan. Il a campé. Le clan Israël. À ce moment-là, ils sont un. On peut parler d'unité. Jusque-là, ils ont campé. C'est un île, c'est l'Ebné Israël. C'est aussi l'Ebné Israël ou les tribus, peu importe. En tout cas, ce n'est pas le clan Israël. Il n'y a pas de singulier possible à ce moment-là. Donc l'Ebné Israël sont bien en galoute, mais Mitzrayim n'est pas en galoute dans la mesure où on n'est pas. On n'existait. Ce n'est pas un peuple qui est parti et qui a été exilé. La première fois où les Bnei Israël sont dans un... c'est pas encore un vrai galoute, mais lorsque les Bnei Israël ne sont pas là où ils devraient être, pour la première fois, c'est où? Pardon? Heureusement que tu es là. Hein. Alors, le premier moment où ils ne sont pas là où ils devraient être, c'est quand ils sont en galoute dans les 38 ans de tribulation des Bnei Israël. Ils ne sont pas là où ils devraient être, ils devraient être en Eretz Israël à ce moment-là. Alors, ce n'est pas qu'ils étaient en Israël et qu'ils en sont sortis, mais ils n'y sont pas arrivés à cause de quoi ? Rose des Meraglim. Et dans l'Esparim, on explique que le problème des Meraglim, la faute des Meraglim, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés voir, ils ont vu. Et ensuite, ils ont parlé, non? Ensuite, ils ont expliqué ce qu'ils ont vu. Mais qu'est-ce qu'il y a? En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de voir, ils avaient déjà décidé du point de vue, en quelque sorte. Ils ont vu les choses de la façon dont ils voulaient les voir. Alors, ce qu'on reproche essentiellement au Meraglim, dans le discours dans le rapport discours qu'ils ont fait à Moshe Rabbeinu. C'est quand ils disent Aïnou Be'enehem Ki Chagavim, nous étions aux yeux des habitants de ce peuple, de ce pays, Israël, Eretz Israël. Nous étions comme des sauterelles. Vechen Aïnou Be'enehem. Et nous étions aussi ainsi dans leurs yeux. Ils nous voyaient comme ça. Alors, le texte a l'air, ne dit pas où est-ce qu'on sait, comment ils savent qu'on les voyait comme ça. Rachid dit qu'ils ont entendu que les gens entre eux disaient, c'est drôle, il y a des gens là, ils sont comme des sauterelles dans les arbres. Je ne sais pas très bien, je ne connais pas grand-chose, mais je ne sais pas pourquoi les sauterelles sont dans les arbres aussi. Elles vont partout, quoi, mais aussi dans les arbres, je ne sais pas. Bref, donc, en tout cas, ils disaient que les gens, ils ont entendu les gens les comparer à des sauterelles. Mais en vérité, ce qu'ils disent, qu'est-ce que ça a comme importance, c'est que la façon dont les gens nous voient, etc. C'est-à-dire, ils avaient décidé qu'ils ne pourraient, ils feraient pas le poids devant les gens. Ils ont vu les choses comme ils voulaient les voir. En d'autres termes, la parole des Meraglim, elle était déjà là, avant qu'ils ne voient les choses. Le P était avant le Aïn. La bouche était avant l'œil. L'œil, ça représente la capacité de se laisser, le Tov ou le Moutav, bien sûr, dans le bien ou dans le mal, mais de se laisser bouleverser par ce qu'on a vu, c'est le Chidouche. J'ai vu quelque chose de nouveau. Je vois. Et ayant vu, je vois autre chose. Je suis censé comprendre autre chose, modifier ma position. La vision, au sens de voir, à tous les sens de voir, pas seulement la vision, mais quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu vois, même si tu vois ce que c'est, tu comprends les choses, on lui dit ça quand on lui apprend quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne sait pas. Quand on lui dit quelque chose qu'il connaît, on ne va pas lui demander ce que tu vois. Bien sûr qu'il voit, il sait. Le problème, c'est que cette parole dite avant, c'est la parole de celui qui ne se remet pas en question. La parole de celui qui il sait d'avance. Il n'a pas besoin de voir. Je sais. Donc, on met la parole avant l'œil. Le P avant le Aïn. Ça, c'était déjà la faute des Meraglim. Cette incapacité de faire face à quelque chose de nouveau, incapacité à se laisser bouleverser. J'ai déjà dit souvent qu'une Torah qui ne bouleverse pas n'est pas une Torah. On n'a pas besoin de la Torah pour nous dire ce qu'on sait déjà. Ben, si la Torah ne vient que me rabâcher les choses que je sais déjà, je peux aller faire autre chose que d'étudier la Torah. Si je ne suis pas prêt quand j'ouvre la Torah, à me laisser bouleverser par ce que la Torah va me dire. Et que je ne sais pas encore. Ça ne vaut pas la peine d'ouvrir le scripteur. On va mieux aller se promener. Parce que c'est plus grave que de ne pas étudier. Étudier et ne trouver dans la Torah que ce qu'on y a déjà mis, c'est grave, parce que ça déforme la Torah. Tout ce qui enlève à la Torah sa capacité de bouleversement, c'est-à-dire sa dimension divine. Cette dimension divine, si on lui enlève cette dimension divine, c'est une profanation de la Torah. Celui qui va se promener et qui n'étudie pas la Torah, il n'a pas profané la Torah. Il n'a rien compris, malheureusement, mais il n'a pas profané la Torah. Celui qui prend la Torah et qui lui fait dire ce que lui veut dire, c'est-à-dire ce qu'il sait déjà, lui, il a profané la Torah. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec notre problème? Pourquoi est-ce que on lit un texte à Tisha B'Av qui parle de cette inversion de la bouche et de la et de l'œil. Tout ça, c'est un peu compliqué. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce que les Chachamim, je ne sais pas si c'était les mêmes d'ailleurs, du coup les Chachamim, lorsque ils ont eu vent, ils ont compris. Quand on amène quelque chose au Beit HaMikdash, il y a un Beit Din, il y a un tribunal, le Din de Kohanim, qui examine les animaux qu'on veut approcher, pour savoir s'ils sont en cachère, s'ils ont un moum, s'ils ont un défaut ou pas. Quand ils ont vu arriver Barakamsa, qui amène l'animal qu'on allait amener au nom du gouverneur, et qu'ils ont vu l'entaille faite dans l'entaille qui est faite dans la lèvre ou sur la paupière, ils ont compris ce qu'il était en train de faire. Ils ne sont pas tombés dans la pluie. Ils se sont demandé qu'est-ce qu'on fait. Alors, les uns ont proposé de dire bon, on approche quand même. Bon, c'est Pikouach Nefesh pour le clan d'Israël, c'est un danger, c'est une. Bon, c'est un grand problème. Est-ce qu'il faut mettre la Torah entre parenthèses pour éviter de se confronter au pouvoir, ou non? Alors la Gemara, elle rapporte qu'il y a un certain Rav Zecharia qui, quand il eut que les Chachamim voulaient l'approcher quand même, on dit, mais ça veut dire quoi? Désormais, on va approcher les animaux avec un défaut? On n'entend pas que les Chachamim lui ont dit oui, finalement, tout compte fait, nous sommes majoritaires ou je ne sais pas quoi, on va l'approcher, on va le faire. Il a raison, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'il dit, c'est vrai. On ne peut pas admettre que la Torah va se plier aux circonstances. La Torah, elle va accepter tout à coup d'être mise entre parenthèses pour des raisons complètement politiques. Il a raison. Mais les Chachamim ont dit, mais finalement, ce type-là, c'est un danger pour le clan d'Israël, ce Barakamsa. Il met le clan d'Israël en danger. Bon, c'est un rodef du clan d'Israël. Il faut le tuer. Si on le tue, il ne va pas amener l'animal, on va en amener un autre cachère, et puis tout se passera bien. Un délateur, à un certain niveau, on a le droit de le tuer, anarchiquement. Et alors Rabbi Zecharia a dit, mais on va donc dire que celui qui, on va dire, parce qu'on ne pourra pas dire pourquoi. Donc les gens vont entendre que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Matil Moum Bekotchim. Il a mis un moum, il a installé un défaut rédhibitoire sur un animal qui avait de la gdoucha. On va dire quoi? Quelqu'un qui fait un avéra comme ça là, il est passible de mort. Évidemment, il n'est pas passible de mort. C'est un issour, mais il n'est pas passible de mort pour autant. Donc, dit Rav Zecharia, la halakha ne permet pas de le tuer. Puisqu'on ne pourra pas dire que c'est parce qu'un délateur, etc. Puisque on ne peut pas oublier ça. Donc, on va dire qu'on l'a tué pour ça. On ne peut pas. Alors, la Gemara, elle dit que l'exigence, la rigueur de Rav Zecharia a entraîné la destruction du Beit HaMikdash, le brûlement du Beit HaMikdash, le galout d'Ebné Israël. Donc on dit que ce Rav Zecharia, il est fautif. Mais on vient de voir qu'en fait, il a raison dans ce qu'il dit. quel problème? Comment est-ce qu'il faut voir la situation maintenant? Ce qu'il dit, a priori, il a raison. Mais d'un autre côté, les Chachamim, et c'est écrit comme ça dans la Gemara, qu'il est fautif de l'état dans lequel on est, de la destruction du Beit HaMikdash. Il y a donc, objectivement, d'après la Gemara, il y a une faute chez ce Rav Zacharia. Mais la faute, elle n'est pas dans ce qu'il dit. Parce que les arguments, un à un, sont parfaitement justifiés. Mais qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce que vous diriez, là? Mais c'est pas une petite bête, ça, Issou. Il a raison. L'animal, pour les Romains, il est cachère. Pour les Bnei Israël, il ne l'est pas. Si maintenant. Pardon? Pour leur culte à eux. Donc eux, ils approchent des sacrifices et ils diront ben, nous, on sait ce que c'est approcher des sacrifices. Vous faites la même chose que nous. Ben, nous, si c'est bien pour nous, pourquoi ce ne serait pas bien pour vous? Si c'était une grande chose, on pourrait imaginer que si eux, disons par exemple, le mouton à cinq pattes pour eux c'était cachère et ça n'était pas pour nous, ils pourraient comprendre. Oui, donc bon, eux, quelque chose de naturel et un mouton à cinq pattes c'est pas suffisamment naturel, donc on peut pas. Ça, ils comprendraient peut-être. Mais une entaille sur, ça n'empêche pas de voir la paupière. C'est la lèvre n'empêche pas ni de l'animal, il doit pas parler. Mais ça ne l'empêche pas de manger, ça ne l'empêche de rien du tout. Il y a une entaille, c'est tout. Elle est cicatrisée, il y a une entaille, c'est tout. On voit qu'il y a une entaille.
J'ai l'impression d'étroitesse incroyable du raisonnement. On a l'impression qu'il se laisse coincer dans toute une série de choses. En fait, pour sortir d'une situation, un geste, par exemple, je ne sais pas, prendre par exemple un autre animal et publier à la fois, faire les deux choses. Sortir de cette étroitesse en par exemple, en ne prenant pas l'animal, mais en prenant un autre au nom des Romains et en faisant savoir aux Romains que, un, on est reconnaissant et on accepte, que, deux, comme on est un peu maquillé, que suite à. Il se trouve que. Donc, on a mis un autre animal, mais on les a crédités de la chose, donc on empêche qu'ils deviennent des ennemis tout en respectant la halakha.
Est-ce que. Oui, bon, savoir, est-ce qu'ils auraient accepté ça?
Pourquoi pas? Parce qu'ils font les deux, c'est-à-dire qu'ils expliquent la chose et ils font l'acte en même temps. Tandis que là, on a l'impression d'une espèce d'une étroitesse d'un raisonnement qui entre et qui reste toujours enfermé, comme si on pouvait sortir, absolument pas sortir de la situation. Mais on peut sortir de la situation. Il y a, je ne suis pas sérieux, mais il y a toujours des possibilités de sortir d'une solution dans le pays, qui sont légèrement des solutions doubles, où il y a à la fois on parle et on agit en commentant. On peut remonter, mais là, on a l'impression, il y a pas, c'est pas une pensée, ça, c'est une espèce de fil qu'on dévide, qui devient de plus en plus ténu et de plus en plus impossible à réaliser. C'est pas un raisonnement, ça. Les actes qui s'objectent, qui ensuite objectent par-dessus l'objection, vraiment l'impression que ça devient un petit fil qui est bien plus étroit, au lieu d'être une réflexion de Torah qui s'élargit, qui va chercher.
Donc ça veut dire que, si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est qu'en fait la Torah, elle doit être capable de s'adapter aux situations. La Torah, il faut qu'elle puisse s'adapter à la réalité du monde dans lequel on est. Voilà, on est maintenant sous les Romains, on est en galoute. Et il y a des choses dont il faut. Quand toi tu proposes une solution, mais je ne sais pas si on peut prendre ça, parce que c'est pas sûr du tout que tant que Bar Kamsa était là, qu'on n'avait pas accès probablement au gouverneur. C'était lui le. Et lui il dira, mais ils sont, tu vois bien, ils n'ont pas pris ce que tu veux, il va dénoncer. Ils ne pourront pas le justifier. Je crois qu'ils n'ont pas d'autre choix que le cas échéant, de l'approcher quand même, effectivement. De ne pas tenir compte de la remarque du Rabbi Zacharia.
Ils auraient peut-être pu trouver une subtilité qui aurait fait faire le sacrifice par les Romains eux-mêmes.
Non, pas du tout. Bah, comme ça, il dit, pas du tout. Toi, tu envoies dans leur temple, fait par eux, un sacrifice, ce qu'on a le droit de faire, c'est normal. Un goy peut envoyer un hola, et on fait la procédure, la même procédure que si c'était un juif qui l'avait envoyé. C'est exactement la même chose. On n'est pas en train d'inventer quelque chose. Justement, il me semble qu'on ne peut pas parce que Barkhamsa est là. Il faut tuer Barkhamsa si on veut faire un subterfuge. Parce qu'ils ne sont pas. C'est peut-être ça leur défaut de ces rabbinim à ce moment-là, de ne pas être capable de lui dire. Je vous ai dit, de dire quoi? C'est vrai, tu as raison, mais on n'est pas obligé de dire que parce que dans ce cas-là, on a permis d'approcher le Corban, que de façon générale, on va permettre. Ta généralisation, ici, on a approché, c'est un cas de... peut-être qu'ils n'avaient pas le pouvoir de faire une horacha. Normalement, c'était facile. On aurait pu faire une horacha, c'est-à-dire horacha, c'est ce que a fait Barak Carmel. Et lui, à un avis, il a mis au défi les prophètes du Baal et il a porté un corban sur le Carmel, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash. Il y a un avis, il vit à l'époque où il y a déjà le Beth Amikdash, c'est-à-dire un issour absolu d'approcher un corban ailleurs qu'au Beth Amikdash. Or, il y a un avis, il apporte un corban au Carmel, dans un Carmel. Ça s'appelle Hora'at Sha'a. Un avis, un prophète qui avait le droit de mettre momentanément, pour des raisons qu'il jugeait valables, de mettre la Torah entre parenthèses. Et la question est de savoir jusqu'où on avait ce pouvoir, jusqu'où les Chachamim qui viennent après les Nevi'im, est-ce qu'ils pouvaient faire une Horat Shah de ce genre-là? C'est assez. Donc, visiblement, ils ne pouvaient pas le faire, parce que sinon, on aurait pu répondre c'est Horat Shah, fini. Donc, ils ne pouvaient pas le faire, ils n'avaient peut-être pas le pouvoir, ils n'étaient pas en. Peut-être qu'on n'avait plus le pouvoir à ce moment-là de faire le Horacha. On n'a plus aujourd'hui ce pouvoir, enfin à ma connaissance. Non, je crois que ce qui n'a pas passé, en quelque sorte, c'est cette idée que la Torah, elle va tenir compte d'une certaine réalité, d'accord, et on n'est pas obligé d'en faire une règle générale de la Torah. Ce n'est pas parce qu'on a permis ici d'approcher cet animal avec un moum, c'est l'animal d'un goy, il peut nous faire. Voilà ce qu'il nous a fait. Il a quand même éclaté complètement le clan d'Israël. On a fait 2000 ans qu'on est en galoute à cause de ça. C'est des conséquences. Bon, même s'ils n'ont pas vu les conséquences dans leur totalité, mais ils ont bien vu que ça allait faire du problème avec ce gouverneur. Parce que dire que les juifs se révoltent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire la guerre contre les juifs. Il faut les tuer, il faut. Alors. Là, il a peut-être pas. Ils n'ont pas voulu passer outre à son avis, tout en disant que. Alors, je ne sais pas si cette Gemara-là, la remarque, c'est lui qui a détruit le Beth Amikdash, etc., est-ce qu'elle a été faite plus tard? Quand on regarde la situation, on dit finalement, lui, il est fautif parce qu'il a ramené ces arguments-là, mais bon. Qu'il amène ses arguments, la question que vous avez entendue et que vous avez même posée, c'est pourquoi les Chachamim ne lui ont pas dit? Oui, d'accord, mais ce n'est pas comme tu dis. On ne va pas généraliser. On ne va pas laisser. C'est privé, on ne va pas publier sur le monde entier. Il y a quelques Kohanim qui sont dans le coup, qui vont approcher ce Corban. Une Ola, ce n'est pas un Corban public, c'est pas le Beth Amikdash, ce n'était pas un lieu tellement public. Hein. C'est un tout petit endroit où on ne pouvait quasiment rien voir. Donc, sauf quand c'était vraiment, on ouvrait les portes très grandes, un Sukkot, tout ça, mais autrement, on ne voyait pas grand-chose. Et qui pouvait déjà voir? Alors, il y avait les quelques Kohanim qui étaient de service, on aurait pu leur expliquer. Et, ouais, c'est, taisez-vous, n'en faites pas une généralité, on ne peut pas faire autrement. Donc peut-être que la Torah va permettre cette façon de tenir compte de circonstances qui obligent à faire certaines choses. Mais on peut entendre le dilemme dans lequel ils étaient, et bon, c'est tombé de l'autre côté, ils ont décidé autrement, ils n'ont pas contré Rav Zecharia. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a refusé, et ça a eu les conséquences que ça a eu. Que les... Lui, il n'avait certainement pas une vue de la Torah comme quelque chose qui est suffisamment large pour envisager un arrangement. Enfin, prendre en compte la réalité, ce n'est pas un arrangement. C'est prendre en compte une certaine réalité. Lui, il pensait certainement qu'on allait... Bon, c'est interdit, donc le Rabbanan, ils ne pourront pas l'accepter. Ça fera le scandale que je veux que ça fasse. Oui, le tort des rabbanim, c'est de ne pas avoir eu cette vision assez large, qui était, on a l'impression que, justement, on se serait attendu de la part de gens qui sont les rabbanim que les autres ne comprennent pas ça, c'est assez logique. Mais que eux, je ne sais pas qui ils étaient en réalité, mais que eux ne l'aient pas compris, c'est, enfin, il me semble, que c'est ce qui ressort de la Gemara, c'est que ou alors on dit que bon, il fallait qu'on aille en galoute parce qu'on était déjà pourri. C'est peut-être ça aussi la possibilité. C'est quelque part, si on fait intervenir Hachem dans cette affaire directement, disons ouvertement, si on le disait comme ça, Hachem a fait en sorte qu'ils ne soient pas capables de le faire parce qu'ils ont cette vision-là de la Torah, mais elle va d'air avec l'état dans lequel il y a de la délation, l'état dans lequel il y a de la haine gratuite, etc. C'est quoi la haine gratuite? Ça veut dire chacun s'occupe que de soi. La haine gratuite, c'est il n'y a que moi. Ouais. Tout le reste... Oui, je pense que cette idée que les Chachamim ont mise dans le fait de composer, enfin, de lire ce qui est, enfin, de relire le texte qui est alphabétique et de le fabriquer avec cette inversion au milieu et tout, qui mène au chaos d'ailleurs, n'est-ce pas? Il y a eu cette inversion et ça a amené quoi? Le cinquième paragraphe qui est complètement chaotique. Il n'y a plus aucune règle, n'est-ce pas? On a débouché sur le galoute. Ça, le texte n'a plus de structure. Donc le clan Israël n'a plus de structure. Il est complètement émietté dans le clan Israël. Et dans le monde.
Et pourquoi il y a une possibilité de se donner plus de temps et prier Hachem pour...
Ils ont sûrement prié. Hachem, il n'a pas besoin de plus de temps. S'ils ont prié... Ils ont sûrement prié pour trouver une solution. Ils ne l'ont pas trouvé. Déjà, des Chachamim qui étaient à la fête, vous voulez dire. Les Chachamim qui ne sont, sont pas intervenus à l'expulsion. Alors, la majorité, ce n'est pas un principe qui s'applique tout le temps. Il y a des règles bien précises, des situations bien précises dans lesquelles on va après la majorité. On ne va pas après la majorité. Mais bon, c'est bien ce qui s'est passé. Ce qui nous est présenté, c'est quoi? Les Chachamim disent, on va l'approcher comme ça, et lui, il objecte. Et son objection, curieusement, son objection n'est même pas discutée, comme si, évidemment, oui, on sait bien que si quelqu'un dit quelque chose comme ça, on va être coincé. Comme si on ne pouvait pas passer par-dessus son objection. Mais pourquoi on ne peut pas passer ça, par-dessus son objection? Finalement, Ça veut dire quoi? Lui, il a une parole toute faite, c'est toujours la même parole. Il amène une parole toute faite qui ne regarde pas la situation. C'est de nouveau le P avant le Haïn. Regarde la situation, c'est maintenant on est... Et c'est, regarder, c'est toujours... Vous savez, dans les midot qu'on a dites, que les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai ont proposé comme étant la racine de la bonne mida, il y a Roet Anolad. Roet Anolad, c'est celui qui voit les choses quand elles sont nées. Pas quelqu'un qui voit des choses qui n'existent pas, mais quelqu'un qui voit les choses quand elles sont encore embryonnaires, il voit déjà tous les développements. Or, de qui est-ce qu'on dit qu'il est Roet Anolad? Chacham Roet Anolad. Le signe de la Chochma, c'est d'être Roet Anolad. C'est-à-dire, on disait ça de Breskerov, que lui, il coinçait tout le monde parce que dès qu'il y avait quoi que ce soit, lui voyait tous les développements et il savait exactement ce qui allait arriver. Et il prenait position. Les gens étaient épatés parce que comment il a pu. Il voyait toujours tous les développements possibles, quasiment, des choses. Et là, justement, voir tous les développements possibles, c'est, d'après ça, c'est inclus dans le Leftov, d'après Rabbi Yochanan ben Zakkai. Être capable de voir les développements. Et ça, c'est la mida fondamentale. Donc, il leur a manqué cette mida fondamentale de Leftov, qui manquait à cette génération. C'est une génération dans laquelle il y a, on peut dire de façon générale, cette sinatrinam, qui est le levra. Dans le levra, il y a un manque de vision, et c'est ce qui s'exprime ici. Un manque de vision des conséquences que vous appelez, vous, de la responsabilité. Effectivement, ils n'ont pas pris, ils n'ont pas été suffisamment responsables pour se dire, mais qu'est-ce qui va advenir de notre... Si on écoute ce Rav Zecharia, alors effectivement, ce qu'ils ont dit après, à cause de lui, ça a été détruit, mais tu pouvais le savoir. Tu ne le savais pas, mais bon, il fallait... Si vous aviez eu... Ça serait qu'ils aient été aveuglés au point de ne pas voir ça, ça veut dire que la mida de Sinat Rinam, chez eux, elle s'est exprimée comme ça. Chez eux, la Sinat Rinam, elle s'est exprimée comme l'Evra, et l'Evra, ça inclut ne pas voir être un olad. Ça, c'est ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est ce que les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ou Rabbi Yochanan ben Zakkai, en disant que ce que dit Rabbi Elazar, ça inclut tout le reste, c'est ce qu'il leur a dit. Si on l'entend comme ça, on entend très bien le pourquoi des choses. Pourquoi ils n'ont pas été capables? Parce que chacun regarde immédiatement. Est-ce qu'ils se sont dit, on va avoir une mauvaise réputation comme un tribunal qui permet d'approcher des corbanotes avec des défauts, ou bien on va avoir une réputation d'un tribunal qui tue pour des raisons où il n'a pas de raison de tuer, et donc ils ont eu peur pour leur kavod ou pour leur renom, je ne sais pas, dans la suite des temps, je ne sais pas. D'accord. Mais ça, c'est la suite, c'est l'expression, au niveau des rabbanim, c'est l'expression de Sinat Rinam. Sinat Rinam, c'est, d'après le travail qu'on a fait avec le Maharal, c'est ça, ça inclut cela. Et ça, c'est c'est le génie du Maharal. De montrer que... Enfin, c'était le Rabbi Yochanan ben Zakkai, déjà. Mais, bon, du Maharal, de le mettre bien au clair, cette histoire. Que ne pas être capable de voir, donc de prendre des mesures qui tiennent compte du futur, c'est, d'une certaine manière, amputer la Torah. C'est faire que cette Torah n'est capable que de répéter une parole et ne pas être incapable de chidouche. Alors tout le chidouche, c'est la Torah Shebaal Peh. C'est pas dès lors que quelque chose est acquis et si on le fige, devient Torah Shebirtav. Et on n'a pas le droit d'écrire la Torah Shebaal Peh par écrit. Ce qu'on a fait, c'est parce qu'on était obligé pour des raisons techniques, mais on n'a pas le droit, parce qu'elle perd justement sa qualité de vie. On a oublié de voir la Torah comme un corps vivant. C'est-à-dire, un corps vivant, c'est cette capacité également de voir un olad. Encore une fois, C'est pas quelqu'un qui voit des choses qui n'existent pas. Dès que c'est nolad, dès que c'est né, c'est encore... que ça existe de façon embryonnaire ou peut-être même à la naissance, déjà, peu importe, mais déjà, on voit toutes les conséquences. Donc, tout le chidouche que ça porte en soi. Toute chose qui naît porte en soi un chidouche. Le chidouche, tout ce que ça va donner et qui n'existe pas encore à ce moment-là. Et c'est ça le défaut, en quelque sorte, ici, qui lui aussi nous a amenés en galoute. Ça veut dire qu'on est aussi on est en galoute. Si la trinam, c'est un mot trop général. On est en galoute parce qu'on, est incapable d'être un shachen tov, d'être un lev tov, de façon générale, d'être, je ne sais pas, roet, anolad, tout ce qui a été dit. On est incapable de cela. C'est ça le galout. Dire qu'on est encore dans le galout parce qu'on n'a pas réglé le problème de sinatrinam, ça veut dire qu'on est encore dans cet état de sinatrinam, de lèvra, donc de tous ces éléments qui sont inclus dans. Et si on veut avoir une idée, justement, plus claire de ce que c'est sinatrinam, c'est un mot très, tellement général que une haine gratuite d'abord, on ne sait même pas ce que ça veut dire. D'accord. Comment on peut avoir une haine gratuite? C'est... Si elle est gratuite, alors d'où elle vient cette haine qui serait gratuite? Alors, c'est des mots. Si on veut essayer de donner un contenu à ces mots, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que c'est une haine gratuite? Bon, alors c'est ça, ça voudrait dire. Ben, pourquoi on ne dit pas un égoïsme? Pourquoi on appelle ça de la haine gratuite? Mais pourquoi elle n'a pas de raison d'être? Si elle n'a pas de raison d'être, pourquoi elle est? Mais quand même, qu'est-ce que c'est ce quand même? C'est son ego. Il n'y a que moi qui existe, c'est tout. Tout le reste, quantité négligeable. C'est la même chose, n'est-ce pas? En vérité, ce que je vous avais dit, qu'on a passé des mitzvot, enfin, la verot, et au midot, bon ben, en fait, c'est la même. Puisqu'elles sont équivalentes, le Chazal dit c'est équivalent. Tu vois. Le sinatrinam, ça fait le poids contre les trois fautes cardinales. Ça veut dire que si maintenant on a un peu clarifié que le contenu de sinatrinam, comme étant l'Evra, etc., d'après le Maharal, alors ces choses-là, elles se retrouvent dans les trois avérotes. Comment est-ce qu'on va les trouver dans le meurtre, par exemple? Chazal disent très clairement, ils le disent déjà au niveau de la colère, que quand on est... Tuer quelqu'un, c'est... Il y a quelqu'un qui me dérange dans le monde dans lequel je suis. Donc je l'efface. Il me dérange, je le tue. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi il y a de la place pour moi dans le monde. Si quelqu'un me dérange, pourquoi on tuerait quelqu'un? Ce qui me dérange dans mes fantasmes, il me dérange, je ne sais pas, économiquement, dans ce que j'ai envie de faire sur n'importe quel plan, ben je l'efface, on l'enlève. On pense qu'à soi, on enlève. C'est comme ça, non? C'est pas juste? Vous ne prononcez pas non plus.
Dans les trois fautes énoncées, c'est évident que les conséquences sont énormes.
Oui, non, mais elles sont énormes, mais le problème, ça c'est... Et ce qu'on voudrait, c'est... Si on dit que c'est équivalent, ça voudrait dire qu'il y a de cela dans toutes les... Dans ces trois fautes. Il y a de cette midotra haute. Ici, midotra haute, c'est l'ego, en quelque sorte. C'est aussi mon ego par rapport à l'idolâtrie. C'est aussi qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? C'est un ego par rapport à Hachem. C'est-à-dire, je choisis ce que j'ai fabriqué moi-même comme idole plutôt que quelque chose qui s'imposerait à moi.
Ça, c'est...
Oui, elles ont les mêmes, elles ont la même racine, mais elles sont moindres dans la mesure. Enfin, si on peut mesurer comme ça, dans la mesure où, où elles ont entraîné un galout de 70 ans et l'autre un galout beaucoup plus long. Mais d'un autre côté, la destruction du premier Beth Amikdash, elle est quand même beaucoup plus importante, parce que le deuxième Beth Amikdash n'a jamais été à la hauteur du premier. Il n'y avait rien, l'essentiel de ce qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash ne se retrouve pas dans le deuxième. Quand on dit que ceux qui avaient connu le premier ont pleuré quand ils ont vu le second, c'est pas seulement que peut-être l'esthétique n'était pas, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il n'y avait rien de, il n'y avait pas les Nissim, il n'y avait pas d'Aaron HaKodesh, il n'y avait pas les Luchot, tout ça, ça n'existait pas, il n'y avait pas d'Aaron dans le deuxième. Donc c'était vraiment une espèce de pis-aller, au point d'ailleurs que dans les textes, on ne voit pas qu'il y en ait trois. On parle à Rishon vers Aharon, on parle quasiment pas du deuxième. On parle de celui du futur, mais on ne parle pas vraiment du deuxième. Parce que le deuxième, c'était un pis-aller. Pardon ? Donc, ça veut dire que les premières fautes, elles ont comme conséquence qu'on n'a pas construit le deuxième, vraiment, à la hauteur. Il y a la destruction. C'est vrai qu'on est allé en 70 ans de Galout, mais on n'a jamais retrouvé, contrairement à ce qu'on peut penser, on n'a pas trouvé non plus. On est aussi en Galout du premier Beth Amikdash. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que... Oui, un autre chose. C'est peut-être pour ça qu'il est... Le premier Beth Amikdash... Bon, c'était pas vrai. Vas-y. Oui, à Marine. Oui.
Je ne sais pas
Non, mais je crois que la haine gratuite, elle est dans le fait qu'on nous dit que M. X, il avait un ennemi, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas du tout. Que... C'est ça qui est gratuit. Ce qui était gratuit, c'est pour ça qu'on dit, pourquoi on dit que c'est la haine gratuite? Parce que c'est l'existence de la paire, Kamsa bar Kamsa, je vous l'ai dit au début, où Kamsa, il ne fait rien du tout. Il n'est même peut-être pas là. D'accord? Mais il a accepté de jouer un rôle dans l'existence d'un ennemi absolu, parce que pour avoir un ennemi absolu, il faut avoir un ami absolu. Et donc, en étant l'ami absolu, permet l'existence de l'ennemi absolu. De l'ennemi absolu, gratuit. C'est un ennemi. On ne sait pas. La Torah aurait dû nous dire, si la Gemara nous avait dit, il est son ennemi parce qu'il a trahi, parce qu'il a ceci, on ne sait rien du tout. C'est présenté comme... Il a un ennemi et maintenant tout s'en suit. C'est ça, la gratuite, c'est pas... Non, comme ça, c'est un bonhomme qui se venge, c'est pas du tout gratuit. C'est pas, ce qui est gratuit, c'est qu'il l'a étendu à tout le clan d'Israël. Alors sa haine, qui était normalement une haine qu'il aurait dû circonscrire aux gens qui étaient là, ou à M. X, ou au Rabbanim, etc., mais il l'a étendu ça à tout le clan d'Israël. Monsieur X, on ne le nomme même pas, alors qu'en fait, c'est lui, à mon avis, c'est le pire.
On peut poser la question s'il a des ennemis, c'est assez ambivalent, parce qu'il a un ennemi, donc on peut dire que s'il a un ennemi, c'est qu'il est bon d'une certaine personne.
Le raisonnement ici, j'ai pas beaucoup mangé, mais... Oui, oui. Non, c'est pas juste. Il y a une faute dans le raisonnement. En fait, les midot, en fait, elles montrent à l'homme le chemin qu'il doit prendre. N'est-ce pas? Rabbi Yochanan lui a dit quel est le chemin qu'il faut choisir, et donc, on veut savoir quelle est la mida qui va nous indiquer le chemin, c'est-à-dire qu'elle va caractériser un certain chemin. En fait, j'ai pensé, le Rambam, quand il parle du Mashiach, il dit que tout reviendra à la situation, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ça reviendra à la situation du temps de David Hamelech. C'est pas qu'on va... On va s'éclairer à la bougie, hein, je ne pense pas que ce soit ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que la référence à David Ameller, c'est une référence à un temps où le Beth Amigdash était pensé, mais pas réalisé. David Ameller, il a pensé le Beth Amigdash. Il a inventé l'idée du Beth Amigdash. Il a ramassé tous les éléments pour pouvoir construire le Beth Amigdash. Mais il ne l'a pas construit. Et c'est comme si, au fond, on disait, dès le moment où on construit le Beth Amigdash, on le fige. Tout ce qui est figé, d'une certaine manière, est mort. Et donc, dans le Beth Amigdash, pour qu'il ne soit pas mort, il fallait qu'il y ait vraiment beaucoup d'énergie, il fallait y mettre de l'énergie, c'est quasiment triatamétique qu'il fallait faire. Parce que quand on fige les choses, quand ça devient institutionnel, quand c'est quelque chose là en plus ça s'est inscrit dans l'espace de façon très... Une des forces du clan Israël, c'est que pour prier par exemple, on n'a pas besoin d'un espace bien déterminé, on peut prier n'importe où. D'accord. On prend une pièce n'importe où et on débarrasse et on fait un minyan. Et on peut faire la tfila de Yom Kippour. Je ne me rappelle pas comment s'appellent les salles dans lesquelles ils font la tfila de Yom Kippour. Quand on les loue, on loue des grandes salles. Le reste du temps, on fait des choses qui n'ont rien à voir avec la tfila. Mais ça ne nous dérange pas. On n'a pas besoin d'un lieu. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on a perdu avec ce Beth Amigdash? Qu'est-ce qu'il avait, ce Beth Amigdash? Il avait peut-être justement cela, c'est que, étant donné qu'il était dans l'état dangereux, en quelque sorte, de devenir quelque chose de figé, moi j'appelle ça un temple, ouais, comme un temple, hein, etc., pour qu'il ne soit pas cela, pour que ça soit quelque chose de vivant. Alors il y avait l'Enissim, c'était du côté de la Kadosh Baruch Hu, mais de notre côté, il faut qu'il y ait de la Torah dans ce Beth Amigdash. Il faut qu'on voit la Torah à l'œuvre, c'est-à-dire la Torah, c'est ce qui donne la vie. Il faut quelque part que le Beth Amigdash reste du David Ameller. On peut expliquer ce que je vous ai souvent raconté, qu'à l'inauguration du Beth Amigdash par Shlomo Ameller, le Aaron HaKodesh, il avait été construit à l'extérieur, et la dimension du Aaron, c'était 10. La motte, n'importe. Et les portes du Beth Amigdash, leur largeur, c'était 10. 10 dans 10, ça ne rentre pas. Shlomo Ameller, à l'inauguration du Beth Amigdash, il ne pouvait pas faire entrer le Aaron HaKodesh dans le Beth Amigdash. Il a porté les corbanotes, il a fait ce qu'il pouvait. Rien n'y a fait. C'est curieux. D'ordinaire, je vous explique que ce qui ne marchait pas, c'est que Shlomo Ameller, c'est encore une chose qu'il faut expliquer, que je ne sais pas expliquer, mais que Shlomo Ameller, à l'inauguration, il était en train de passer sous silence son père David. Il faisait une inauguration. Il ne mentionnait pas du tout que l'idée du Beth Amigdash, c'était son père David qui l'avait tué. Et moi, j'ai construit le Beth Amigdash. Et après, je beaucoup l'en a empêché. Il n'a pas pu faire entrer là. Il n'a pas pu inaugurer. En désespoir de cause, je ne sais pas si c'est un désespoir, en tout cas, finalement, il a dit le Tilim 24, comme Dalet. Qui contient Sou, Sharim, Rochechem, Sou, Pitre, Olam, Viavo, Melech, Akavot, qui enjoint au Pitre, Sharim de s'ouvrir, et les portes se sont ouvertes. Donc il n'a pu faire l'inauguration de Beth Amigdash qu'en mentionnant son père par le biais des Teilim de son père. Mais peut-être que c'est ça l'idée. C'est pas simplement un problème entre un père et un fils. C'est peut-être justement que ne pas mettre du David dans la construction concrète de Shlomo HaMelech. C'est lui enlever une partie de son côté vivant. Le côté non figé qu'il y avait dans l'idée de David, qu'a eu David, l'idée non réalisée. Elle était en devenir. Et quelque part, tout dans le clan d'Israël est toujours en devenir parce que la Torah nous a été donnée avec l'obligation de développer la Torah chez Baal-Pé. Nous avons l'obligation de développer une Torah chidouchique. La Torah chez Baal-Pé, ce sont des chidouchim par rapport à la Torah écrite. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est de l'ordre du Aïn par rapport au Pé. Un Aïn qui ensuite va permettre à un Pé d'exprimer ce que le Aïn a vu. De se laisser bouleverser par le Aïn, et ensuite l'exprimer, le formuler. Il faut le formuler, c'est vrai. Mais le formuler, c'est simplement pour mettre un nouveau point de départ à partir duquel on va pouvoir voir d'autres choses. Donc quand les Bnei Israël comprennent que, quand ils ont vu, quand ils ont tiré les conclusions de tout ce qu'ils ont vu, ils en ont fait de la Torah, ils ont mis en place une forme de Mishnah, ça ne devait pas être obligatoirement écrit, mais la Mishnah, c'était déjà la partie orale, mais un peu figée, puisque on tenait vraiment à la formulation, on disait que Hillel, qui avait appris chez Shmaya et Aftalion, c'était les Guérim, ils avaient une difficulté à prononcer certaines lettres. Et comme Hillel était leur élève, il a les Mishnayot qu'il avait apprises, enfin les textes qu'il a appris chez Shmaya Aftalion, il les disait avec la difficulté, avec la déformation de Shmaya Aftalion. Shmaya Aftalion déformait certains mots, et Hillel, pour ne rien changer à l'enseignement de ses maîtres, il disait ces mots-là avec la même difficulté, avec la même erreur, en quelque sorte, si on parle comme ça, que celle que faisait Shmaya Aftalion. Imaginez, c'est pas quelqu'un qui aurait eu un rébé français. Alors, il va raconter la Torah, il va la raconter avec l'accent marseillais ou avec l'accent parisien, il va raconter sa Torah. Oui, pourquoi? Il l'a entendu comme ça de son maître. S'il veut être fidèle au maître, il va le dire avec le même accent, même si lui, il a un autre accent. Même si lui, il a appris à parler convenablement, il va le raconter avec l'accent. C'est ce que faisait Hillel. Pour bien montrer combien il faut prendre appui sur ce qu'est... Ça, c'est la Mishnah. Prendre appui, mais ensuite, on construit à partir de ce nouveau point d'appui, on reconstruit sans arrêt. Ça, c'est la vie de la Torah. Et le galout dans lequel on est, c'est un galout dans lequel on nous a enlevé d'une certaine manière tout ce qu'on pouvait nous enlever de figé. Tout ce qui représente un certain risque. De par sa fixation dans l'espace, bon, on nous a enlevé la terre, on nous a enlevé le Beth Amikdash. Et quand on récupère certaines choses, il faut être bien sûr qu'on n'est pas en train de retomber justement dans la verre qui sont liées aux choses figées. Parce qu'on est dans la mort avec ça. Ce qui est figé, c'est ce qui est mort. Et la Torah chez Birtav, elle ne s'entend que s'il y a en même temps Torah chez Baal-Pé. Même Moshe Rabbeinu a reçu lui qui a reçu la Torah, qui est la Torah écrite, la Torah Shebirtav, il a aussi reçu des halakhot directement, le Moshe Messina, qui sont des halakhot orales. Et d'ailleurs, le passage, comme on l'a dit déjà, le passage des quatre premiers livres au Sefer Dvarim, Mishneh Torah, c'est déjà un passage qui va vers la Torah chez Baal-Pé. Parce que cette fois-ci, ça n'est plus Hachem qui parle directement par la bouche de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui parle, inspiré, mais c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Bon, ben les Chachamim, c'est la suite. C'est eux qui vont parler, inspirés. Entre-temps, il y a aussi d'autres Nevi'im qui parlent de façon inspirée. Mais c'est les hommes qui parlent. Ça n'est plus Hachem qui parle directement par la bouche. Voilà. On s'arrête là.